Bonjour à tous et à toutes. Alors avant de lire cette lettre, je voudrais vous dire quelques mots simplement. Paul adresse cette lettre à des chrétiens macédoniens, et plus précisément, comme Philippe nous l'a dit, à l'église de la ville de Philippe. Philippe, cette ville de Macédoine, région au nord de la Grèce actuelle. Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul va être appelé à traverser la Macédoine. Et il se trouve à Troas, dans la Turquie actuelle, lorsque pendant la nuit, il voit en rêve un Macédonien qui le supplie de venir en Macédoine les secourir. Paul conclut dans cette vision que le Seigneur l'appelle à y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il va s'y rendre. Et il va prêcher dans cette contrée qu'on appelle aujourd'hui les frontières de l'Europe. Il passe dans plusieurs villes de Macédoine, dont la ville de Philippe. Et là, plusieurs vont accepter l'évangile de Jésus-Christ. Alors cette ville de Philippe, vous la connaissez, elle est associée à plusieurs événements qui nous sont relatés dans les Actes, et vous avez certainement entendu parler déjà de certains événements. Lydie, la marchande de pourpre, cette femme de Thyatire, qui est rencontrée dans un lieu de prière proche de la ville de Philippe, elle s'attachera au Seigneur, elle et sa famille. Vous avez peut-être entendu parler de la servante, cette servante qui avait un esprit de divination, un esprit de python, comme il est dit dans la parole, que Paul va délivrer et il va s'attirer sur lui la persécution et l'emprisonnement. Et suite à cet emprisonnement, en prison, il va témoigner au geôlier et lui et sa famille vont aussi s'attacher au Seigneur. L'église de Philippe va naître un petit peu de ce voyage missionnaire de Paul à Philippe et de ces quelques personnes qui vont connaître l'évangile de Jésus-Christ. Et quand ils quittent ces lieux, c'est Silas et Timothée, ses compagnons qui vont poursuivre son œuvre pendant son absence. Il reviendra dans cette région quelque temps plus tard et ce sera l'occasion de parcourir encore ces contrées, ces différentes villes et d'exhorter les chrétiens de la ville de Philippe. La lettre de Paul nous révèle aussi que l'église de Philippe a gardé un lien étroit avec l'apôtre Paul. Et ça, il faut le retenir, parce qu'après le départ de Paul, l'église de Philippe va entretenir un soutien matériel et spirituel avec Paul. Et ces dons matériels vont venir régulièrement, à plusieurs reprises, dans le ministère de Paul. On sait que Paul mettait un point d'honneur à ne pas dépendre de personne, mais l'église de Philippe va vraiment entretenir des dons auprès de l'église. L'église de Philippe va entretenir des dons, auprès de Paul. Et ils détacheront même un des leurs, Épaphrodite, que vous allez entendre aujourd'hui, avec un don pour venir en aide à Paul pendant sa captivité. Alors cette lettre de Paul est écrite de prison. Il faut bien comprendre, elle est écrite de prison, certainement de Rome, où il vit en captivité. Timothée est nommé avec Paul dans cette lettre, il est certainement à ses côtés au moment où il l'écrit. Du coup, cette lettre de Paul, écrite de prison aux frères de l'église de Philippe, est très personnel. C'est l'occasion de remercier l'Église pour l'aide qu'Épaphrodite lui a apportée. Et donc, elle témoigne d'une profonde affection qui est visible tout au long de cette lettre. Paul y évoque sa joie, malgré la prison. Et il évoque aussi son espérance de voir bientôt les frères de l'Église de Philippe. Alors, plusieurs raisons vont conduire Paul à envoyer cette lettre à l'Église. Tout d'abord, il va leur renvoyer Épaphrodite, qu'il avait détaché à son service. Épaphrodite tombe malade et Paul décide de le renvoyer vers eux. Il leur confie alors cette lettre à laquelle il exprime sa gratitude. Cette lettre de Paul, c'est aussi l'occasion de rassurer ceux qui, dans l'Église, s'inquiètent du sort de Paul qui est en prison. Et c'est l'occasion pour Paul aussi d'apporter un enseignement. Chaque fois que Paul écrit une lettre, il apporte un enseignement et il va encourager les frères de l'Église. Il va les encourager à tenir ferme dans la foi et dans le témoignage. Et il profite de cette lettre aussi pour mettre en garde l'Église contre les menaces contre elle. Peut-être parce qu'Épaphrodite est venu et lui a donné quelques nouvelles de l'Église. Et Paul se doit de les mettre en garde contre certains dangers, notamment les mauvais ouvriers, comme il dit, ceux qui se glorifient eux-mêmes dans une certaine forme de légalisme. Il les met en garde aussi contre ceux qui vivent en ennemis de la croix de Christ et qui finiront, comme il dit, par se perdre. Paul va s'attacher dans cette lettre, comme il le fait souvent, à rappeler que Christ est le centre de l'espérance qui est en eux. Christ est notre fierté. Les expressions « dans le Christ », « en Jésus-Christ », « dans le Seigneur » vont revenir plus d'une vingtaine de fois. Et il nous montre que la connaissance de Christ est notre bien suprême. Voilà, nous allons lire cette lettre ce matin. Vous allez y voir des nouvelles, des remerciements, vous allez y voir des recommandations, des avertissements. Et vous allez y voir aussi un enseignement profond sur la personne de Christ. Donc ce matin, vous pouvez vous mettre en disposition pour écouter ces paroles de Paul. Elles ont été écrites il y a 2000 ans, mais elles peuvent être reçues aujourd'hui en Église et être reçues pour chacun et chacune d'entre nous. C'est un bien précieux. C'est un bien précieux pour notre édification. Lisons maintenant la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix.
J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous, en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadée. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaînée dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu.
Je tiens à ce que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redoublent-ils d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai porter encore du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. C'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ.
Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez.
N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ? Dans l'amour, un encouragement ? Par l'esprit, une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par un esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute marche et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. »
Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi.
J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai. Et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même.
Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis, de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient, à mes yeux, un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi.
Non, frère. Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frère, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme, en restant attachés au Seigneur.
Je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande. Viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous.
Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen.
Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Ici s'arrête la lettre de Paul aux Philippiens. Merci.